Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme du jour, de l'opéra, on va s'entretenir avec la chanteuse franco-russe Elena Gabouri. Elle vient de démarrer une série de représentations de l'Aïda à Melbourne. On ira aussi à Sydney pour vous parler de la fête de la musique qui se prépare dans le quartier de Manly. Et puis, comme tous les mardis, on fera le point sur les actualités de la semaine en France. Mais d'abord, place aux informations internationales. On y va pour le bulletin. Et les principales actualités de ce mardi 11 mai 2021. Josh Frydenberg, le ministre du budget, présente ce soir le budget du gouvernement pour l'année 2020-2021, un budget destiné à favoriser la relance post-pandémie. Le retour de la violence entre Israël et la Palestine, au moins 20 personnes sont mortes hier dans la bande de Gaza. Et en France, la mort de Michel Fourniret à l'âge de 79 ans, c'était l'un des rares tueurs en série français. Retour en fin de journal sur cet homme surnommé l'ogre des Ardennes. Et la principale actualité du jour en Australie, c'est donc la présentation ce soir au Parlement du budget fédéral par Josh Frydenberg. Un budget qui ne devrait pas lésiner sur les dépenses, l'objectif étant d'accélérer la relance post-pandémie, mais aussi de faire chuter le taux de chômage sous la barre des 5%. Hors coronavirus et reprise économique, l'un des éléments marquants également qu'on attend dans ce budget, c'est l'accroissement considérable des fonds alloués au NDIS, le National Disability Insurance Scheme, cet organisme de soutien aux personnes handicapées que le ministre assure ne pas avoir oublié.
In tonight's budget, you'll see additional funding for the NDIS. This is a wonderful program. It's made a profound change to the lives of Australians with disabilities and their families. We all know stories of people who have been assisted by the NDIS. And under the coalition, the NDIS will always be fully funded. We need to ensure it continues to remain sustainable. But under the coalition, we are deeply committed to the NDIS and we'll always ensure that it's fully funded.
Sur un autre sujet, on n'y croyait déjà plus vraiment, à vrai dire, mais ce budget nous apporte également une autre certitude, celle que les frontières de l'Australie, malheureusement, ne rouvriront pas avant l'année prochaine, en 2022. La santé ou la liberté de circulation, la question s'est posée pour le gouvernement et sa réponse, elle a été très claire. La priorité absolue, c'est la santé, c'est ce qu'a rappelé le ministre Simon Birmingham sur Channel 9.
Australia is doing well and that enables us to invest. And you know, you look across the world, in Europe, they're going back into recession, a double dip recession induced by COVID. In India, we can see the health catastrophe that's happening there. And so you know, in Australia, we want to make sure that we keep people safe, which is why we're being so cautious in things like international borders.
Et ceux qui parmi nous vont pouvoir bientôt passer les frontières, ce sont les Australiens qualifiés pour les Jeux Olympiques. Afin d'assurer à leur participation aux Jeux de Tokyo, déjà décalés d'un an et qui doivent se dérouler au mois de juillet et d'août, les athlètes ont commencé cette semaine à se faire vacciner. Des centres de vaccination ont ainsi été déployés dans les grandes villes du pays. De quoi rassurer ces athlètes, d'après Matt Carroll, le président du comité olympique australien. Ce Matt Carroll, il s'est également exprimé à propos de l'opposition grandissante au sein de la population japonaise vis-à-vis de la tenue de ces JO. Cette réaction n'est d'après lui pas surprenante. Écoutez-le.
It's not surprising that that the resentment would be building in Japan. I mean, the government is committed, and in terms of their prime minister is committed, and the IOC to making it a safe games. And you can already see the measures that Us getting the Australian team vaccinated is obviously important. There's over 60% of the national Olympic teams have also getting vaccinated at the moment. So there's that, no foreign visitors are very important. So a lot of measures being put in place. The athletes go to the bubble of the village, they come out, they go to competition, and 48 hours after they're finished, they're on the way home.
À Canberra, le gouvernement fédéral n'a pour l'instant toujours pas fixé de date limite pour atteindre la neutralité carbone. En revanche, la ville de Sydney vient, elle, d'annoncer une accélération de son objectif en la matière. Elle compte désormais atteindre la neutralité carbone dès 2035, soit 5 ans plus tôt que la date à laquelle elle s'était précédemment engagée. En la matière, la ville de Sydney fait figure de pionnière en Australie sur la question de la réduction des gaz à effet de serre. Elle utilise d'ores et déjà 100% d'énergie renouvelable pour faire tourner ses propres services et ses propres activités. En Israël, je vous le disais dans les titres, le retour de la violence entre Israéliens et Palestiniens. Lundi, des roquettes ont été tirées sur Jérusalem depuis la bande de Gaza, un assaut par lequel l'armée israélienne a répliqué en bombardant le territoire palestinien. Au moins 20 personnes ont succombé à cette attaque. Des événements qui font réagir l'ensemble de la communauté internationale. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a appelé à la désescalade.
That violence needs to cease. All sides need to de-escalate, reduce tensions, take practical steps to calm things down. I appreciate some of the steps we've seen in the last 24 hours, particularly with regard to rerouting the parade and putting off a decision on the evictions. But it's imperative that all sides take steps to de-escalate and calm the situation. And again, I'm deeply concerned about the rocket attacks, and even as all sides take steps to de-escalate, Israel, of course, has a right to defend its people and its territory from these attacks.
Dans la bande de Gaza, en tout cas, malgré la violence des représailles imposées par l'armée israélienne, cette attaque ne semble pas avoir entamé la détermination des militants. Écoutez par exemple le témoignage d'Amja, recueilli par l'envoyé spécial de RFI, Sami Boukhelifa.
Nous sommes tellement tristes. À Gaza, il y a eu des morts, des martyrs. Que Dieu vienne en aide à nos frères. Nous, ici à Jérusalem, nous sommes habitués à la répression des forces de l'occupation. Ce n'est pas nouveau. On fait face aux tirs de balles en caoutchouc et aux gaz lacrymogènes. Leurs moyens de répression ne nous font pas peur. Au contraire, cette répression nous pousse à la résistance et on finira par les faire plier. Vous savez, le Premier ministre Benjamin Netanyahou publie sur ses réseaux sociaux « Jérusalem est la capitale d'Israël. Jamais nous ne l'accepterons. Avec ce qui se passe en ce moment, j'espère que des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël le regretteront. »
Sinon, un léger mieux sur le front de la pandémie dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé annonce aujourd'hui que le nombre de nouveaux cas de coronavirus se stabilise, avec même des déclins très nets enregistrés en Europe et aux Amériques, deux des continents les plus touchés. Pourtant, elle, la propagation des variants, beaucoup plus contagieux, à un moment où les restrictions sont levées dans de vastes parties du monde, reste très importante. La situation reste d'ailleurs critique d'après Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS.
Globally, we are now seeing a plateau in the number of COVID-19 cases and deaths, with declines in most regions, including the Americas and Europe, the two worst affected regions. But it is an acceptably high plateau, with more than 5.4 million reported cases and almost 90,000 deaths last week.
Et toujours en rapport avec le coronavirus, une actualité venue des États-Unis, la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament, vient de donner son feu vert pour la distribution du vaccin Pfizer aux enfants âgés de 12 à 15 ans. C'est le premier vaccin anti-Covid à recevoir ce type d'autorisation aux États-Unis pour ce groupe d'âge. Une étape jugée essentielle par le gouvernement américain pour permettre aux enfants de retourner à l'école en toute sécurité. Et puis on reste aux États-Unis puisque là-bas donc on ne manque pas de vaccins. En revanche, pas toujours facile en ce moment de faire son plein d'essence. La société Colonial Pipeline, qui gère le plus grand oléoduc des États-Unis, a été victime d'un piratage informatique en fin de semaine dernière, une attaque qui a poussé l'entreprise Colonial à interrompre le fonctionnement de son pipeline et qui provoque des perturbations dans la distribution de fuel et d'essence un peu partout dans le pays. Le gouvernement américain a pour sa part pris des mesures pour éviter les pénuries. À Washington, la correspondance pour RFI d'Anne Corpet.
Il n'y a pas encore de pénurie, a fait savoir la Maison-Blanche, mais le président américain a déjà levé les restrictions qui pèsent habituellement sur la circulation de camions-citernes. L'armée et le secteur privé seront mobilisés, si c'est nécessaire, pour organiser le ravitaillement en carburant. Le réseau de pipelines immobilisés transporte chaque jour normalement plus de 2,5 millions de barils d'essence, de diesel et de kérosène destinés aux stations-service et aux aéroports de 17 États. La société Colonial dit vouloir remettre le pipeline en opération d'ici la fin de la semaine. Selon le FBI, l'attaque est attribuée à un groupe dénommé DarkSide, des cyberdélinquants expérimentés qui cherchent à soutirer de l'argent de leurs cibles. Selon la police fédérale, l'attaque a été lancée depuis la Russie, mais Joe Biden a dit ne pas avoir la preuve de l'implication du gouvernement russe. Les autorités américaines précisent enfin que puisque l'attaque vise une société privée, c'est à elle de décider si une rançon doit être ou non versée. Anne Corpet, Washington, RFI.
En France, la mort de celui qui était sans doute le plus célèbre tueur en série de l'Hexagone, Michel Fourniret, est mort hier après-midi à l'âge de 79 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Condamné une première fois à la prison à perpétuité pour le meurtre de 7 jeunes femmes et adolescentes, il avait été aussi rendu coupable d'un assassinat en 2018, là aussi condamné par une peine de prison à vie. Mais Michel Fourniret laisse aussi derrière lui de nombreuses autres affaires sans réponse. Retour sur celui qu'on surnommait l'ogre des Ardennes, Marie Casadebé pour RFI.
Le parcours criminel de Michel Fourniret aurait commencé dans les années 60. Il est alors jeune père de famille, dessinateur industriel. Il fait monter dans sa voiture une fillette de 11 ans qu'il tente d'agresser avant de relâcher. Face aux enquêteurs, il évoque une dépression, une tendance au voyeurisme. Sa femme le quitte. Deuxième mariage, trois autres enfants. À la fin des années 70, Michel Fourniret écume les routes armé d'un vieux pistolet à la recherche de jeunes filles vierges, une obsession. Après plusieurs agressions et un viol, il est arrêté en 1984. Sa seconde épouse demande le divorce. Arrivera alors dans sa vie Monique Olivier, la complice de son entreprise meurtrière. Elle doit l'aider à trouver ses proies, il doit se débarrasser de ses anciens maris et partenaires. Ils sillonnent ensemble la région à bord d'une camionnette blanche. Elle joue les rabatteuses en amadouant leurs victimes, parfois avec leur bébé dans les bras. Impossible encore de savoir combien de jeunes femmes Michel Fourniret a assassinées, seules ou en couple, entre ses aveux, ses rétractations et ses mensonges. Selon le quotidien Le Parisien, une trentaine d'ADN inconnus prélevés sur des objets personnels sont en cours d'analyse et de rapprochement avec des affaires non élucidées.
Et en France toujours, la justice vient de trancher en faveur de l'industrie agrochimique. Bayer, Monsanto, Dow Chemicals et d'autres géants du secteur comparaissaient devant le tribunal en région parisienne pour leur rôle supposé pendant la guerre du Vietnam. Et plus précisément, la question était de savoir s'ils pouvaient être tenus pour responsables pour l'épandage du tristement célèbre agent Orange par l'armée américaine dans les années 60 au Vietnam. Donc, et bien pour la justice française, la réponse est non. Les arguments présentés par la plaignante étant, d'après le tribunal, irrecevables. À Paris, les explications de Vincent Souriau.
En 2014, Trantonia engage un bras de fer contre les géants de l'industrie agrochimique. Cette franco-vietnamienne, aujourd'hui âgée de 78 ans, assigne en justice plus d'une vingtaine d'entreprises américaines. En fournissant au gouvernement des États-Unis de quoi fabriquer l'agent Orange, avance-t-elle, vous avez sciemment participé à répandre un poison ultra toxique au Vietnam. Et pour appuyer son propos, elle met en avant ses maladies multiples, cancer du sein, diabète, tuberculose, qui résultent, selon elle, de son exposition à l'agent Orange dans la région de Saïgon en 1966. Vrai ou faux, c'est impossible à prouver et le tribunal d'Evry ne s'y risque pas. Les juges français s'arrêtent en revanche aux archives de l'administration américaine et ils constatent qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, les ordres venaient d'en haut, de tout en haut, car c'est le président américain John Fitzgerald Kennedy en personne qui fait alors réquisitionner ses stocks de composants chimiques. Les magistrats français estiment par conséquent que les multinationales de l'agrochimie ont été contraintes de participer à l'effort de guerre qu'elles ont agi pour le compte de l'État américain et qu'à ce titre, elles ne peuvent pas être poursuivies par la justice française. Monsanto, Bayer et consorts gagnent donc la première manche, mais les avocats de Trantonia ont déjà annoncé qu'ils allaient faire appel.
Et comme toujours, nous terminons ce bulletin d'information avec un coup d'œil sur la météo en Australie ce mardi. 27 degrés du soleil à Perth, 16 degrés seulement à Adélaïde où le temps est couvert aujourd'hui, 15 degrés de la pluie sur Melbourne, quelques averses aussi à Sydney où il fait 21 degrés, 28 degrés à Brisbane avec quelques risques d'orage, chaud et humide aussi aujourd'hui à Cairns avec 29 degrés et jusqu'à 35 degrés à Darwin ce mardi.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot. L'Australienne Sam Kerr a remporté le trophée de la Golden Boot. La capitaine des Matildas qui joue pour Chelsea a marqué 21 buts cette saison en Angleterre. C'est la sixième fois en 5 ans qu'elle remporte le trophée dans 3 pays différents, en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Elle est ravie, on l'écoute.
Yeah, coming over from America, not gonna lie, this feels pretty good. Yeah, it is special, I think. It was always a dream of mine to come play in Europe and to continue to score and be a part of this amazing team. This is my job to help us win titles, so I'm pumped.
La Brésilienne Tatiane Weston-Webb a remporté hier la finale du championnat de surf de Margaret River en Australie-Occidentale. Et chez les messieurs, c'est aussi un Brésilien qui l'emporte, Felipe Toledo. On revient au foot en France avec le Paris Saint-Germain qui a fait match nul avec Rennes, 1-1 et du coup laisse Lille en tête avec 3 points d'avance avec 2 journées encore à disputer. Et Lille est prête à s'emparer du titre. Marie-Amélie Motte, Radio France Internationale.
Les Parisiens devaient absolument l'emporter pour conserver une réelle chance d'être champion, mais ils sont tombés sur des Rennais appliqués, disciplinés et qui les ont pressés très haut sur le terrain. Alors pas mal d'occasions des deux côtés, un but refusé à chaque équipe aussi. Les Parisiens ont fini par marquer juste avant la pause, un pénalty litigieux sur Levin Kurzawa et transformé par Neymar. Cela n'a pas empêché les Rennais de repartir à l'attaque en seconde période et ça a fini par payer. Serhou Guirassy a égalisé d'une très jolie tête à la 70e minute. Et ensuite, fin de match compliqué pour le PSG, plusieurs arrêts décisifs de Keylor Navas et un carton rouge pour Presnel Kimpembe, auteur d'un tacle dangereux sur Jérémy Doku à la 88e. Avec ce match nul, Paris a sans doute dit adieu au titre, même si Moïse Kean, l'attaquant italien du PSG, veut encore y croire.
On croit toujours au premier poste. C'est à nous maintenant de gagner, de croire tous les matchs. C'est pas encore perdu, on croit tous les matchs, on s'entraîne jusqu'au bout. Il faudrait un miracle, mais nous, on donnerait, si c'est à nous, on donnerait le 100% pour gagner le premier poste.
Alors concrètement, ça va quand même être compliqué pour Paris. 3 points de retard sur Lille. Il faudrait que les Lillois perdent l'un de leurs 2 derniers matchs contre Saint-Etienne et Angers, 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Le PSG, pour sa part, affrontera Reims et Brest lors des 2 dernières journées.
En Angleterre maintenant, Manchester City, toujours pas couronné, comme nous l'explique Sarah Loubacouche pour RFI.
Battus sur le fil samedi par Chelsea, les hommes de Pep Guardiola vont encore devoir patienter. City aurait pu être sacré dimanche si Aston Villa battait Manchester United, mais ce sont les Red Devils qui ont fini par s'imposer 3-1, malgré la belle réalisation de Bertrand Traoré, auteur de l'ouverture du score par Aston Villa. Le Burkinabé a inscrit son 6e but cette saison en Premier League. Du mouvement aussi dans le bas du tableau en Angleterre, West Bromwich est relégué après sa défaite à Arsenal. Les Gunners qui ont triomphé 3-1, notamment grâce à une très belle frappe de Nicolas Pépé. L'international ivoirien a redonné le sourire à son équipe, éliminée en Ligue Europa la semaine dernière.
En Espagne, le Real Madrid a raté une belle chance dimanche de prendre la tête du classement de la Liga après le match nul 2-2 avec le FC Séville. Précision de Pierre Chaperon et de Christophe Dirimzian pour RFI.
Real rate le coche, le Real très fatigué. Une victoire leur aurait permis d'être premier du classement. Le classement justement, Atlético premier, 77 points à 2 points derrière. Eh bien, c'est le Real et le FC Barcelone. Ce sera difficile pour Séville qui a 71 points. Le Real qui va affronter Grenade, l'Atlético Bilbao et Villarreal. Et Séville, ça sera Valence, Villarreal et Alavés.
Alors il y a un joueur dans ce match, Pierre, vraiment, c'est le défenseur Marcelo.
Oui, on savait que c'était la fin de règne pour celui qui a gagné 4 Ligues des Champions. Au final, on a eu un Marcelo un peu perdu sur le terrain. Il s'est blessé à 5 minutes de la fin de la première mi-temps, mais Zidane l'a laissé sur le terrain, remplacé par un jeune de la réserve à la 66e, Miguel, bien plus entreprenant. Marcelo, toute la presse est d'accord pour dire qu'il n'a plus le niveau du Real. Il a la tête ailleurs, il est même dépassé par Ferland Mendy qui était blessé ce soir. Marcelo, on sait qu'il n'est pas bon à l'entraînement, qu'il est physiquement à la limite. Ça s'est vu encore ce soir. Triste fin de règne pour lui.
Alors, on parle du Real, Pierre, pas mal de questions cette semaine quand même chez vous entourant l'avenir de Zinedine Zidane.
Oui, assez énigmatique hier en conférence de presse quand on lui a demandé s'il allait partir en fin de saison. Il a répondu « Je ne poserai pas de problème au club ». Plusieurs choses. La Cadena Ser a annoncé que la direction du Real le garderait, titre de champion d'Espagne ou pas. Oui, mais le problème, selon plusieurs sources, Zidane est fatigué. Fatigué notamment des critiques à son encontre qui ont ressurgi d'ailleurs après son coaching perdant cette semaine en Ligue des Champions face à Chelsea. Agacé par ses dirigeants qui parlent à la presse pour faire passer des messages. Au final, la décision sera prise par Zidane en fin de saison et pourrait entrer en compte bien l'arrivée de renfort. On pense bien évidemment à Mbappé et surtout le départ de joueurs sur lesquels il ne compte plus. Et là, on pense à Bale et à Isco. Le Real ne veut pas se retrouver, lui, sans entraîneur comme lors du premier départ du Français en 2018. On parle de Allegri, Joachim Löw ou Raúl González Blanco, ancien numéro 7 de légende du Real et entraîneur de la réserve. En ce moment, c'est les trois de la shortlist.
On écoute maintenant la réaction de Zinedine Zidane sur l'arbitrage de ce match entre le Real de Madrid et le FC Séville.
Ce soir, je suis un peu en colère parce que, pour être honnête, je ne comprends pas bien le règlement. Que Militao fasse main, d'accord, mais lorsqu'un joueur de Séville fait la même faute un peu plus tôt, alors il faut qu'elle soit sifflée aussi. Mais bon, il faut faire avec, on ne peut rien y changer. On est malgré tout satisfait de notre performance. Je pense qu'on méritait un peu plus. Notre deuxième mi-temps était bien meilleur, spectaculaire même. On a eu du mal pendant les 20-25 premières minutes. Mais ensuite, on a été mieux en seconde période.
On passe au tennis et les Masters 1000 de Madrid avec la finale des messieurs remportée en trois manches par l'Allemand Alexander Zverev contre l'Italien Matteo Berrettini. Quatrième victoire en Masters pour Zverev, troisième sur terre battue. Cyclisme, le Tour du Rwanda a pris fin dimanche avec Christian Rodriguez de l'équipe Total Direct Energy, le vainqueur de cette édition de 2021. Bilan de la semaine avec Laure Broulard pour RFI.
Christian Rodriguez rapporte le maillot jaune à la France et à l'Espagne au terme d'un parcours particulièrement difficile dans la capitale rwandaise, comprenant trois ascensions du fameux mur de Kigali et trois du mont Rebero. Le coureur espagnol a attaqué dans les derniers kilomètres.
L'équipe a été très forte, elle contrôlait bien la course. Donc quand j'ai vu que c'était solide, j'ai tenté, je suis parti tout seul et ça a marché. C'est ma première victoire professionnelle et j'ai l'étape et le classement général, les deux en même temps. Donc il faut en profiter.
Dans le reste du palmarès, le Belge Lennart Teuggels de Tarteletto Isorex qui a réussi à finir la course comme meilleur sprinter et meilleur grimpeur, deux maillots qu'il a portés pendant la quasi-totalité du tour. Celui du meilleur jeune coureur revient au Français Alan Boileau de BNB Hotel qui a remporté trois étapes cette année, tandis que l'Érythréen Zeraï Nahom est le meilleur coureur africain. Sur les 15 équipes présentes, ce sont les formations françaises, Total Direct Energy et BNB Hotel qui ont sorti leur épingle du jeu. Olivier Grandjean, coordinateur du tour.
Ce sont deux équipes qui préparent le Tour de France et qui sont venues là pour gagner. Total a gagné deux étapes plus le classement général. BNB a gagné 4 étapes et on a aussi quand même d'autres équipes qui se sont bien mises en valeur comme l'équipe Wildlife ou l'équipe Tarteletto qui sont des équipes continentales donc du troisième niveau et qui sont quand même là, qui ont rivalisé avec les autres favoris.
L'équipe Wildlife Generation, tout droit venue des États-Unis, a d'ailleurs réussi à se hisser à la 3e place du classement général avec son coureur Alex Eun. Du côté des coureurs rwandais répartis dans 3 équipes, c'est pourtant la déception, pas de victoire d'étape, et le premier rwandais au classement général, Eric Muhoza, est 23e. Déception également face à la quasi-absence de public sur une course pourtant connue pour la ferveur de ses spectateurs. La police était en effet chargée de disperser les foules le long des routes pour cause de Covid-19.
On passe au Giro d'Italia qui s'est élancé dimanche, la 3e étape hier, une course de 190 km remportée par le néerlandais Taco van der Horn, et le maillot rose de leader est toujours avec l'italien Filippo Ganna. Grand Prix d'Espagne de Formule 1 avec Lewis Hamilton de Mercedes qui gagne devant Max Verstappen de Red Bull. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Vous êtes sur SBS, le programme en français. Il est 13h et quasiment 32 minutes. C'est le moment d'aller voir ce qui s'est passé ces derniers jours en France. Émile Matasso et Jean-Noël Ducasse reviennent notamment sur l'anniversaire des 40 ans de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. C'était le 10 mai 1981.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, les 40 ans de l'élection de François Mitterrand.
Oui, hier lundi, nous étions le 10 mai 2021. Autrement dit, cela faisait 40 ans, jour pour jour, que François Mitterrand, le socialiste, avait remporté l'élection présidentielle, 10 mai 1981, il y a 40 ans, vainqueur au second tour du président sortant d'alors, Valéry Giscard d'Estaing. 40 ans, c'est une date symbolique et partout dans les médias, télé, radio, mais aussi presse écrite, avec des numéros, des dossiers spéciaux, on nous rappelle la portée de cette élection 10 mai 1981, la gauche au pouvoir pour la première fois sous la Ve République, la gauche qui n'avait plus gouverné le pays depuis 1936, hein, rendez-vous compte, 45 ans, la victoire de François Mitterrand, qui 7 ans plus tôt, en 1974, avait été battue de justesse par Valéry Giscard d'Estaing. Cette victoire, elle a suscité à l'époque une vague d'espoir, une ferveur incroyable dans tout le pays, tant l'attente à gauche avait été longue. Après la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a eu les années de Gaulle, le général de Gaulle, il y a eu les événements de mai 68, puis Georges Pompidou, président, et puis toujours à droite, même si on avait là un président plus centriste et moderne, Valéry Giscard d'Estaing. La victoire de François Mitterrand, elle a marqué une rupture, la victoire des socialistes et de leurs alliés communistes, le fameux programme commun qu'allaient appliquer les réformes voulues par la gauche, les communistes qui allaient entrer au gouvernement avec quelques postes. Imaginez à l'époque hein, la France alliée des États-Unis, le camp occidental, la France qui vire à gauche avec des communistes au gouvernement, tout cela en pleine guerre froide. Cela faisait trembler de l'autre côté de l'Atlantique l'oncle Sam. En tout cas, c'est tout ce contexte que nous revisitons ces jours-ci à l'occasion des différents hommages et documentaires qui sont consacrés à cette victoire du 10 mai 1981 et aux années Mitterrand.
Ce dimanche, les anciens fidèles de François Mitterrand se sont retrouvés au Creusot en Saône-et-Loire.
Oui, ce qui reste de ces années mitterrandiennes, les fidèles parmi les fidèles qui sont encore là. François Mitterrand, rappelons-le, est décédé en janvier 1996, après avoir exercé le pouvoir pendant 14 ans, deux septennats, c'était un septennat et non pas un quinquennat à l'époque, deux mandats de chef de l'État de 1981 à 1995, avec au milieu la réélection de 1988. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui de ces années Mitterrand? au-delà des legs architecturaux, ces grands travaux qui ont jalonné ces deux mandats à Paris, hein, notamment l'Opéra Bastille, la Cité des Sciences et de la Villette, le quartier d'affaires de la Défense, la gigantesque Arche de la Défense, mais aussi la pyramide du Louvre, la grande bibliothèque. Il y avait cette volonté dans les premières années, premier mandat de François Mitterrand, d'ouvrir, de casser les carcans, la culture pour tous, avec un ministre de la culture, Jack Lang, emblématique. Qu'en reste-t-il? C'est la question que se sont posées au Creusot, dans cette ancienne ville industrielle, ses anciens compagnons de route. Alors, il y avait là François Hollande, bien entendu, François Hollande qui a permis à la gauche de revenir au pouvoir en 2012, président de la République de 2012 à 2017, François Hollande. Il était là aux côtés d'anciens premiers ministres, Lionel Jospin, ministre de cohabitation sous Jacques Chirac, Bernard Cazeneuve, premier ministre sous François Hollande, Anne Hidalgo était là également, maire de Paris et potentielle candidate pour la présidentielle de l'an prochain. À un an, de cette présidentielle de 2022, la gauche est en miettes. En 2017, il y a 4 ans, son candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, n'a recueilli que 6% des suffrages. Au moment donc de se souvenir de l'héritage de ces années mitterrandiennes et de ce vent de liberté du 10 mai 1981, François Hollande, qui a prononcé le discours d'ouverture au Creusot, il a eu ces mots: « La gauche semble avoir perdu les clés d'un possible et nécessaire redressement ». François Hollande qui a ajouté « Le socialisme a encore des solutions à apporter. Il n'en a pas fini avec sa mission réformatrice. Il n'a pas épuisé son message ». François Hollande, dans sa prise de parole ce dimanche, qui a également eu cette phrase, hein, « Il faut toujours une force et une incarnation qu'il faut imaginer. Il reste un an, fermez les guillemets, il reste un an, et oui, un an avant la présidentielle 2022, où les intentions de vote ne créditent le candidat socialiste, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'Olivier Faure, premier secrétaire du parti, ou Anne Hidalgo, la maire de Paris, que de quelques pourcents, 5 ou 6% tout au plus pour l'instant.
Et puis on ne sait pas encore s'il y aura, et qui, un candidat socialiste à la présidentielle de 2022. En revanche, il y aura un candidat communiste.
Oui, les militants du Parti communiste, ils ont tranché, ils ont voté, un peu plus de 30 000 votants, ce n'est pas énorme, 30 000 votants, mais bon, ils ont désigné leur candidat pour cette présidentielle de 2022. 82% des votants ont validé le nom et la candidature de Fabien Roussel, qui est le secrétaire national du PC. On parlait, il y a un instant, de l'élection de 1981, au premier tour, cette année-là, ce printemps-là, le candidat du Parti communiste, Georges Marchais, avait recueilli plus de 15% des suffrages. Et il avait contribué, en soutenant, bien entendu, le candidat François Mitterrand au second tour, les communistes avaient contribué à la victoire de la gauche. Aujourd'hui, le Parti communiste ne pèse plus grand-chose. La dernière fois que le PC a présenté un candidat à une élection présidentielle, c'est en 2007, en la personne de Marie-Georges Buffet. Le résultat avait été très décevant, moins de 2% des suffrages au premier tour de la présidentielle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les communistes n'ont pas présenté de candidat aux deux présidentielles suivantes, 2012 et 2017. Ils se sont rangés derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise. Mais le torchon brûle désormais entre Jean-Luc Mélenchon, qui sera de nouveau candidat l'année prochaine, il l'a annoncé, il est déjà en campagne, et les communistes. Pas question donc cette fois de se ranger derrière cette candidature-là. Le Parti communiste a décidé d'avoir de nouveau son propre candidat, ce sera Fabien Roussel. « Reprenons ce pouvoir qui nous appartient », a lancé l'intéressé dimanche soir. « Inversons la vapeur, relevons ensemble le défi des jours heureux. Le temps est venu d'abolir les privilèges », propos offensif de Fabien Roussel, optimiste. Mais à un an de la présidentielle, hein, nous le disions, des communistes aux socialistes, en passant par la France insoumise et les écologistes, un grand soir type 10 mai 1981, semble bien loin, bien improbable pour les forces de gauche. Les égos des uns et des autres empêchent pour l'instant toute union ou candidature commune et toutes les projections et enquêtes d'opinion, sondages aujourd'hui sont formelles, quel que soit le scénario. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, aucun candidat dit de la gauche n'aurait la moindre chance d'accéder au second tour. Le schéma pour l'instant qui se profile, eh bien, c'est un bis repetita de 2017 avec un duel au second tour que l'on nous annonce, que l'on nous vend entre Emmanuel Macron, l'actuel président, et Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite, candidate du Rassemblement National.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui de nous entretenir avec Elena Gabouri qui s'apprête à donner une série de représentations dans l'opéra Aïda en Australie. Ça commence d'ailleurs le 6 mai à Melbourne, mais il y aura aussi plus tard des dates à Sydney et à Brisbane. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'Aïda, je crois que pour vous, Elena, c'est un opéra que vous connaissez très très bien et le rôle que vous jouez, vous l'avez déjà joué très souvent dans votre carrière.
Oui, c'est vrai. Il m'est arrivé de rentrer dans ce personnage dans des différentes productions, un petit peu partout dans le monde, en Corée, en Italie, en France. Et voilà. Et maintenant, en Australie, par contre, je ne suis pas rentrée dans cette production parce que je l'ai commencé en 2018 à l'Opéra de Sydney en tant que nouvelle production. Et donc, je suis revenue dans cette production que j'aime particulièrement.
Ok. Alors, donc, Elena, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes franco-russe, mais vous vivez à Paris. Vous êtes arrivée en Australie début avril, vous me disiez, il y a un peu plus d'un mois. En tant qu'artiste, on sait que ça a été très difficile pour les personnes qui se trouvaient en France ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience sur place ?
Bah, écoutez, déjà, je devais normalement arriver à Melbourne. Ça fait un an, mais la production de Lohengrin était malheureusement annulée pour la triste cause qu'on connaît tous. Je suis particulièrement heureuse de revenir quand même à cet endroit, mais de venir, on va dire, et de revenir à Sydney pour une autre production, mais je suis quand même très heureuse de retrouver mes marques, de voir les gens aussi sans les masques, à vrai dire, dans les rues, de voir les cafés ouverts aussi, de travailler, de reprendre ma vie comme elle était avant. Voilà, donc c'est vrai que c'est très très différent de ce qu'on a en Europe. Et disons, depuis ici, ça semble une parenthèse à la pandémie, même si pour moi, elle a duré 13 mois.
Je le disais tout à l'heure, la première date, c'est demain soir à Melbourne. Il y en aura ensuite, il me semble, vers la fin mai, mi-juin à Sydney. Et en novembre, un peu plus tard dans l'année, à Brisbane. Est-ce que vous allez rester en Australie sur toute cette période, c'est-à-dire quasiment sur toute l'année, ou vous avez des déplacements de prévus ailleurs ?
Au fait, je reste pour les spectacles à Melbourne et à Sydney. C'est-à-dire, nous sommes à Melbourne jusqu'au 21 mai, si je ne me trompe pas. Nous avons 8 spectacles. Et puis, nous revenons à Sydney, là où nous avions la quarantaine de 14 jours, pour réadapter le spectacle pour The Sydney Opera House. Et, Et puis, on va rester, donc notre distribution va rester jusqu'à à peu près 17-18 juillet. Et puis ensuite, je vais repartir à la maison, mais ça va être assez court. Ça va être à peu près pour 2 mois, parce que si rien ne change au niveau de la quarantaine, alors je serai obligée de revenir et refaire la quarantaine. Voilà, donc et comme je retourne à la maison pour peu de temps, je vais profiter de mes vacances et aussi me marier. Voilà, donc je vais revenir en septembre pour reprendre la même production à Brisbane.
Bah écoutez, une année très riche, effectivement. Félicitations d'ailleurs pour le mariage en particulier. Alors, pour revenir à Aïda, pour les gens qui ne sont pas très calés sur l'opéra, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots la trame et plus précisément votre rôle, Abneris?
Oui, c'est exact. Alors, on se trouve en Égypte ancien. On est dans la guerre entre les pharaons d'Égypte et les Éthiopiens. Et mon rôle, moi, je suis la fille du pharaon, qui a pour servante une dénommée Aïda, éthiopienne, mais qui est dans son pays aussi une princesse. Voilà. Donc, il arrive une situation de triangle très classique, du triangle amoureux entre mon personnage, Abneris, Aïda, et entre le général Radames, qui, lui, il a une double contrainte de défendre son pays, Égypte, et aussi aimer Aïda, qu'il aime en secret. Voilà, donc du coup, Radames va payer cette situation à cause de la frustration, de souffrance, de colère de mon personnage, qui n'est pas heureuse que le général n'a pas choisi la fille du pharaon, mais une servante. Et puis, Aïda va être sacrifiée aussi, donc dans une tragédie classique. Donc, voilà, ça va finir mal, mais d'une façon très poétique.
Merci beaucoup, Elena Gabouri. On vous souhaite une excellente saison d'opéra ici.
Merci beaucoup.
Et voilà, la saison des pluies, comme on vient de l'entendre, c'est le titre de ce morceau qu'on vient d'écouter, une chanson interprétée par Rameau et Loïc Fleury. Allez, on arrive maintenant dans la dernière partie de l'émission. Et avant de nous quitter, on voulait vous parler d'une initiative qu'on trouve très sympa, une initiative de l'Union des Français de l'étranger à Sydney. Ils organisent une fête de la musique ici, le dimanche 20 juin prochain, dans le quartier de Manly. Tout de suite, on rentre dans les détails avec Joanne Lequien de l'UFE Sydney. Bonjour, aujourd'hui on est avec Joanne Lequien de l'Union des Français de l'étranger à Sydney. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors, 2021, ça va être le 40e anniversaire de la fête de la musique, inventée en France par Jack Lang en 1981. Ça a été repris par beaucoup de villes à travers le monde, mais pas en Australie, en tout cas pas à Sydney, mais vous avez décidé d'y remédier.
Oui, tout à fait. En fait, avec l'Union des Français à l'étranger, il y a 2 ans, on avait déjà ce projet dans les tablettes et on s'était dit que ça pouvait être vraiment une bonne idée de rassembler un peu tous les Français sur un événement populaire qui est connu de tous, parce que clairement, je pense qu'après le 14 juillet, c'est l'une des dates clés au niveau du calendrier festival de l'année. Et on s'était dit pourquoi pas le lancer sur Sydney ou tout du moins dans le New South Wales pour pouvoir rassembler un maximum de Français autour d'un bel événement culturel.
Ok, et alors concrètement, ça va se passer comment? Comme dans les rues des villes françaises, des gens qui vont descendre spontanément avec leurs instruments, ou à quoi on peut s'attendre?
Alors du coup, comme Covid est passé par là, on a essayé de structurer l'événement au maximum. Donc ça va être organisé le dimanche 20 juin, donc la veille du 21 qui tombe un lundi cette année dans le calendrier. Et on a sélectionné un site situé à Manly qui s'appelle le Saint Paul College, qui est situé juste en face de l'ICMS, pour ceux qui connaissent bien la belle structure type cathédrale historique. Donc du coup, c'est un très bel espace et bel environnement, parce que on bénéficie non seulement d'un beau site avec un beau patrimoine, et aussi un bel espace vert. Il y a beaucoup, il y a plusieurs hectares en fait qui sont mis à disposition pour tous les musiciens. Et ce qu'on a effectué, c'est on a lancé en fait un appel à candidature, de façon à ce que tous les différents groupes, notamment en priorité ceux de la communauté française, puissent jouer et s'installer sur différents créneaux horaires. Et comme en général les musiciens ne jouent pas pendant toute une journée, ça leur convient très bien de faire différents moments de 30 minutes ou une heure par exemple. Donc du coup, ça s'est rythmé, ça s'est espacé, et on va organiser 4 grands espaces en fait à l'intérieur du Saint Paul's College, et de façon à avoir aussi beaucoup de styles de musique différents. Ça va notamment de la samba jusqu'au French jazz, en passant par des chanteurs qui vont chanter des classiques français type Aznavour, Edith Piaf, etc. Donc c'est un bel événement qui se prépare.
Et du coup, c'est gratuit? Est-ce qu'il faut réserver son billet à l'avance? Comment ça fonctionne concrètement?
Donc événement totalement gratuit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a lancé l'événement sur Eventbrite, de façon à ce que les gens puissent s'enregistrer. C'est surtout pour être Covid compliant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis en termes de traçabilité. Puis d'ailleurs, on va mettre aussi un QR code à l'entrée. Donc événement totalement gratuit. Et en termes d'animation, au-delà aussi de l'aspect musique, on a créé un partenariat avec The French Counter, avec Guillaume Roux, qui va nous faciliter en fait l'aménagement d'espaces pour des artisans, puis tout ce qui est gastronomie française, notamment avec ce qu'on peut retrouver habituellement sur les French Markets, de façon à ce qu'on ait entre 10 et 15 stands côté nourriture et aussi boissons. Donc ça sera vraiment un genre de mini festival fête de la musique sur un seul et même endroit en fait.
Ok, et donc c'est prévu sur Manly le dimanche 20 juin.
Voilà, c'est ça, dimanche 20 juin. Au niveau créneau horaire, on a prévu ça de 9h à 16h, de façon à ce qu'on ait une belle plage horaire, parce qu'en général, les gens viennent sortir le dimanche, et on s'attend à avoir notamment beaucoup de monde sur la partie midi 14h, mais dès 9h, on a déjà des groupes qui vont commencer à jouer. Donc clairement, en fonction des calendriers de chacun, venez à l'horaire qui vous convient. On sera là toute la journée, et du coup, je pense qu'il y aura une très bonne ambiance, très bonne humeur avec toute la communauté française, mais pas seulement, parce qu'on va essayer ouvrir l'événement plus largement. On va faire aussi un petit peu de communication au niveau des communautés locales, Northern Beaches australiennes, de façon à ce qu'on puisse avoir un maximum de jours, de monde. Et ça sera aussi l'occasion de faire la promotion d'un bel événement et de la culture française au passage.
Ok, on a pris date en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Grégory.
Voilà quelques petites précisions pratiques sur cet événement. Donc la fête de la musique à Sydney, ça se passe le dimanche 20 juin au collège Saint-Paul à Manly. L'événement est complètement gratuit, mais en raison du coronavirus, il est très fortement conseillé de s'inscrire avant de vous rendre sur place. Pour cela, il faut aller sur la page de l'événement du site Eventbrite. Vous retrouvez tous ces détails pratiques sur notre page SBS French.
Je trempe un pied, les vagues lentement caressent.
SBS en français, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de la chanteuse Corinne qui s'intitule, vous l'aurez deviné, Il fait chaud. On espère que vous, en tout cas, vous n'avez pas trop froid en ce moment avec l'hiver qui s'installe. On pense fort à vous, notamment à Melbourne. Et puis, pour ce qui est de notre émission, eh bien, on vous propose de nous retrouver. La prochaine, ce sera jeudi à 13h précise. Et si vous n'êtes pas disponible, eh bien, vous pouvez aussi nous écouter quand vous voulez en podcast via notre appli SBS Radio ou en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.